journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Élection générale en Angola. Après 38 ans de règne, le président Dos Santos passe la main. Nous serons avec Sonia Rollet à Luanda. À Moscou, le metteur en scène Kirill Serebrennikov a été assigné à résidence aujourd'hui. Il échappe à la prison, mais devra rester chez lui jusqu'au mois d'octobre au moins. Récit de Claude Brouillot. Et puis nous serons au Mexique où un journaliste a été assassiné hier. C'est le 10e depuis le début de l'année. Nous reviendrons aussi sur l'annonce fiscale de la journée. Le gouvernement baissera bien les cotisations des salariés, mais en deux temps sur l'année 2018. Il décide donc d'étaler la mesure, nous dira Marie Viennot. À 18h15, du grain à moudre d'été avec vous, Mélanie Chalandron.
Et oui, nous parlerons de voitures ce soir. Des voitures qui deviennent de plus en plus indésirables en ville. Polluantes, encombrantes, dangereuses et surtout trop nombreuses. Alors, faut-il chasser les voitures des villes? On en débat avec trois spécialistes de l'urbanisme et des mobilités, Jean-Pierre Orfeuille, Hélène Régnier et Frédéric Errand.
À tout à l'heure. Depuis 7h ce matin, les bureaux de vote ont ouvert en Angola. Élections générales qui doivent désigner le successeur du président Dos Santos, lequel a su se maintenir arbitrairement au pouvoir pendant 38 ans. Dos Santos, qui tient toutes les rênes de l'économie et de l'État angolais, a bien préparé sa sortie. Son ancien ministre de la Défense devrait l'emporter. Bonsoir Sonia Rollet, vous êtes à Luanda pour suivre ce scrutin pour nous et pour RFI. Alors on dit que les jeux sont faits, Sonia, que le parti du président, le MPLA, remportera sans surprise ces élections et pourtant la population prend le scrutin au sérieux.
Oui, effectivement, hein, la population était d'ailleurs très volontaire en fait pour suivre ce vote. Même ceux qui votaient pour la première fois, ils faisaient très attention à la procédure. Alors comment est-ce qu'on prend le bulletin, comment est-ce qu'on va dans l'urne? Pas tous les Angolais, effectivement, ont voté aux dernières élections. Et donc, il y avait une volonté de faire entendre leur voix, même si beaucoup savent qu'effectivement, ça ne va pas forcément changer le résultat. Ils parlent d'ailleurs de tenter leur chance, c'est leur expression. Et que donc, il y a quand même une volonté d'inscrire ce changement dans un processus légal, tout simplement, parce que l'Angola a vécu une longue guerre civile, et une longue guerre d'indépendance également, et que personne ne veut revenir à cette guerre. Et donc, finalement, le seul choix dans un parti-État, puisque c'est ça dont on parle, un parti-État d'inspiration marxiste-léniniste, où finalement le citoyen a peu de place, cette possibilité de voter, c'est la seule chance qu'ils ont de se faire entendre, même s'ils disent tous effectivement qu'il y a un risque qu'il y ait des votes qui soient retirés par-ci par-là pour permettre aux partis au pouvoir de s'assurer une majorité confortable.
Alors Sonia, il y a une crise du pétrole en ce moment. L'Angola est l'un des plus gros producteurs de pétrole. La population semble mécontente. L'économie va être forcément le défi du nouveau président. Comment a-t-il dit qu'il allait s'inscrire dans l'après Dos Santos ?
Justement, hein, comme tous les présidents angolais, comme le président Dos Santos avant lui, il a parlé de lutter contre la corruption, il a parlé de diversifier l'économie. Alors là, évidemment, ce sont des discours qu'on entendait dans la bouche de son prédécesseur, José Eduardo Dos Santos. Et donc la question se pose aujourd'hui de savoir est-ce qu'il va vraiment mener à bien les réformes nécessaires pour permettre à l'économie angolaise de se relever. Aujourd'hui, personne n'a une idée très claire de l'état de cette économie. Les comptes ne sont pas publiés alors qu'ils devraient l'être. C'est une économie qui est opaque, faite de sociétés d'État, mais qui sont dans la main de la famille, notamment des proches de l'ancien président. Donc le nouveau président devra faire face à ce système-là, un système qui a été aussi autorisé par le parti État MPLA. Et donc, à l'instant, un économiste angolais me disait que la seule possibilité pour l'Angola de s'en sortir est de retrouver une certaine forme de crédibilité à l'international qui fera venir l'argent nécessaire pour permettre à l'économie angolaise de se relever, et ce serait de faire appel au FMI, et que ce sera le FMI qui pourrait devenir finalement le médiateur entre l'entourage de l'ancien président et le nouveau président pour permettre à l'économie angolaise de se relever et de faire un effort de transparence.
Merci beaucoup Sonia Rollet. Donc en direct de Luanda, on attend bien sûr les résultats de ce scrutin, probablement dans la nuit, des résultats partiels d'abord, puis officiels d'ici quelques jours. Le voilà bloqué chez lui, le metteur en scène Kirill Serebrennikov est donc fixé sur son sort pour l'instant, arrêté lundi soir à Saint-Pétersbourg alors qu'il tournait un film, inculpé hier pour fraude à grande échelle. La juge du tribunal à Moscou l'assigne à résidence. Il y avait des centaines de personnes pour contester cette décision tout à l'heure devant le tribunal. Claude Brouillot, vous êtes à Moscou, l'assignation à résidence ne devrait pas durer trop longtemps, Claude?
Si l'on regarde effectivement la durée de la mesure, moins de 2 mois, il est possible de considérer cette assignation à résidence comme une contrainte relative. Pourtant, Kirill Serebrennikov et son avocat se sont battus au cours de l'audience pour l'éviter, car le metteur en scène a assuré qu'il n'avait aucunement l'intention de s'enfuir à l'étranger et qu'il avait toujours utilisé les fonds publics pour réaliser ses projets. Le directeur artistique du Centre Gogol bénéficie bien sûr localement de nombreux appuis parmi les personnalités du monde de la culture, du directeur du Bolchoï en personne à la veuve d'Alexandre Solzhenitsyn. Kirill Serebrennikov, accusé de fraude et privé d'expression, c'est aussi un message à l'attention de tous ceux qui envisageraient d'aller trop loin dans leur critique contre le pouvoir actuel à 7 mois de la présidentielle, estime aujourd'hui le quotidien indépendant Vedomosti. Car les images du metteur en scène unanimement reconnu pour son talent à l'étranger, poussé dans une salle de tribunal par des policiers cagoulés comme un malfrat, sont aussi faites pour dissuader à l'intérieur.
Voilà donc à Moscou, Claude Brouillot. Elle assume toujours plus ouvertement son rôle d'opposante. La magistrate ancienne procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, assure détenir beaucoup de preuves contre le président Maduro. Partie d'abord en Colombie, se réfugier, elle est arrivée aujourd'hui au Brésil dans une conférence avec d'autres procureurs. Elle a dénoncé la mort du droit dans son pays. Elle dit donc avoir beaucoup d'informations sur l'enrichissement personnel de plusieurs responsables politiques du Venezuela, à commencer par le président. Des pots de vin versés par le groupe brésilien du BTP Odebrecht. Un peu plus au nord, au Mexique, c'est pour avoir voulu enquêter sur une affaire de corruption justement qu'il a été tué. Le journaliste Candido Rios, qui travaillait dans l'est du pays, a été abattu, ainsi que 2 autres personnes. Ça s'est passé hier à quelques 200 kilomètres de Veracruz. Bonsoir Marie-France Abastado.
Bonsoir.
Candido Rios enquêtait beaucoup sur la police mexicaine.
Oui, et il était effectivement spécialisé dans les faits divers policiers. Il travaillait pour un journal de l'état de Veracruz. Il entretenait des relations tendues avec nombre de responsables politiques régionaux et avait déjà reçu des menaces de mort du maire de son village natal. Il bénéficiait d'ailleurs d'un programme gouvernemental de mesures de protection des journalistes, un programme rendu nécessaire par les dangers que courent souvent les journalistes mexicains dans l'exercice de leur métier, particulièrement ceux qui enquêtent sur la corruption gouvernementale ou sur le narcotrafic. Candido Rios était le 10e journaliste à avoir été tué depuis le début de 2017. Au printemps dernier, c'est Javier Valdez qui avait perdu la vie. Ce journaliste avait publié plusieurs livres d'enquête sur le narcotrafic dans l'état du Sinaloa au nord du Mexique. Et depuis, l'enquête sur sa mort piétine. Les autorités refusent d'en dévoiler les parties publiques. Et ce, malgré les pressions de l'opinion publique. De nombreuses manifestations, par exemple, ont eu lieu depuis le mois de mai pour demander justice et réclamer une plus grande liberté de presse. Les correspondants étrangers qui travaillent au Mexique ont même adressé une lettre au gouvernement pour demander la fin de l'impunité dans les affaires de crimes contre les journalistes. Et selon Reporters sans frontières, le Mexique est considéré comme l'un des 3 pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, après la Syrie et l'Afghanistan, et 200 d'entre eux y ont été assassinés depuis l'an 2000.
Merci Marie-France Abastado. En bref, le comité antiraciste de l'ONU lance un premier avertissement formel aux États-Unis depuis Genève. Après les événements de Charlottesville, ce comité s'inquiète des manifestations racistes, des chants, des saluts venant de nationalistes blancs, de néo-nazis et du Ku Klux Klan. Sans nommer, bien entendu, le président Trump, l'ONU demande aux responsables politiques américains de haut niveau de condamner sans équivoque et sans condition les discours de haine racistes. Fin de citation. Il faut noter que cette procédure d'avertissement n'a été utilisée que 7 fois au cours des 10 dernières années. Et jusque-là, le comité de l'ONU montrait du doigt des pays comme le Burundi, le Nigeria, l'Irak ou la Côte d'Ivoire. Et puis l'Égypte critique fortement le gel d'une partie de l'aide américaine. La presse croit savoir que Washington ne va pas verser 96 millions de dollars au Caire pour protester contre sa gestion des droits de l'homme. Pas plus de précision, on peut quand même rappeler que l'aide militaire américaine avait été gelée totalement en 2013 après la répression exercée par les Égyptiens contre les partisans du président Morsi. Depuis, cette aide a repris pour atteindre 1,3 milliard de dollars. Les 96 millions gelés restent donc plutôt marginaux. En Europe, le voyage d'Emmanuel Macron en Autriche, à Salzbourg. Le président français voit ses homologues autrichiens, donc, mais aussi tchèques et slovaques, au centre des discussions. Le dossier des travailleurs détachés, il faut mettre fin à cette trahison, dit Emmanuel Macron, qui a aussi rappelé ses ambitions, créer notamment un budget et un parlement de la zone euro. Il sera demain en Roumanie et en Bulgarie. Et puis toujours au chapitre européen, cette question complexe des liens futurs entre le Royaume-Uni, qui a divorcé de l'Union européenne, et la Cour de justice de l'UE. Les Britanniques veulent sortir de son champ d'influence. À Londres, Marie Vivien.
Pour le gouvernement britannique, il n'est pas nécessaire ou approprié que la Cour de justice de l'UE soit directement compétente concernant un État non membre, ce que sera le Royaume-Uni à partir de mars 2019. L'exécutif explique qu'il existe d'autres moyens de résoudre les différends dans les accords internationaux. Il propose de mettre en place une nouvelle structure similaire à la Cour de justice de l'UE, s'inspirant d'instances politiques déjà utilisées par l'UE pour régler des contentieux avec des pays tiers, des pays qui ne font pas partie des traités européens, mais qui bénéficient d'un statut spécial avec l'Union européenne. Londres veut une séparation, mais pas de rupture complète, comme l'annonçaient les pro-Brexit durant la campagne. Les liens avec la Cour de justice de l'UE ne devraient pas être rompus immédiatement dès l'officialisation du Brexit. Comme la semaine dernière, l'équipe de Theresa May a rappelé qu'elle souhaitait une période de transition jusqu'à la mise en place d'un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et le bloc européen. Pendant cette période d'environ 2 ans, il n'exclut pas de rester sous la juridiction de la Cour de justice de l'UE. Un signe que le gouvernement conservateur n'ira pas jusqu'au bout pour les travaillistes. Il prépare la voie à une sorte de reculade dont immédiatement réagit des membres du principal parti d'opposition. De son côté, le parti europhile des libéraux-démocrates estime qu'il n'est pas possible de mettre fin à l'influence de la Cour de l'UE sans porter préjudice au libre-échange et à la coopération en matière de sécurité.
Marie Vivant à Londres. En France, cette indiscrétion ce matin de Bercy, la baisse de la CSG aura bien lieu dès janvier prochain. Janvier 2018, mais la diminution des cotisations salariales va se faire finalement en 2 temps. Marie Viennot, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment tout ça va s'organiser.
Alors on sait que l'on aura les détails au plus tard d'ici fin septembre, quand le projet de loi de finances sera présenté. On saura alors quelle est la baisse des cotisations salariales au 1er janvier et quand interviendra la seconde. Ce qu'assure Bercy, c'est que la baisse sera supérieure à l'augmentation de la CSG dès le 1er janvier et que les salariés du privé, qui sont les seuls à payer ses cotisations, le sentiront donc sur leur fiche de paye dès la fin du mois de janvier. Ce que l'on sait encore, c'est que la hausse de la CSG sera d'1,7 point. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est comment les fonctionnaires, les indépendants, les retraités et les chômeurs vont être impactés. Si on s'en tient au programme d'En Marche, qui était assez détaillé mais qui peut ne pas être respecté, 40% des retraités ne seront pas concernés par cette hausse. Ceux qui sont exonérés de CSG le resteront. Ceux qui payent un taux réduit garderont leur taux réduit. Les chômeurs, non plus, ne verront pas leur CSG augmenter. En revanche, pour les fonctionnaires et les indépendants, c'est encore flou. Le programme d'En Marche prévoyait des compensations, mais sans dire lesquelles. Qui gagne, qui perd et combien? Donc pour le moment, on ne peut pas dire précisément. Ce que l'on peut relever, c'est que dans son programme, En Marche prenait l'exemple d'un salarié gagnant 2 200 euros net par mois et qui verrait donc son salaire net augmenter de 500 euros par an grâce à ces changements, alors que le communiqué officiel de ce matin prend lui l'exemple d'un salarié au SMIC pour qui ce sera donc 260 euros annuels de gains. De la campagne au pouvoir, le discours et la cible ont donc visiblement changé.
Marie Viennot, merci. La suite des discussions autour des ordonnances, la CGT est reçue en ce moment même au ministère du Travail. Et puis le caractère terroriste des faits est bien établi à Levallois, où un homme avait attaqué le 9 août dernier 6 militaires de l'opération Sentinelle. 3 sont sérieusement blessés. Le procureur de Paris, François Molins, précise que l'assaillant s'intéressait bien à des organisations terroristes et qu'il avait des velléités de départ vers la Syrie. On va terminer avec cette alliance conclue entre Walmart et Google, le géant de la distribution américaine s'allie avec le super moteur de recherche pour contrer Amazon et relancer ses ventes en ligne. Ensemble, ils vont proposer aux consommateurs des dizaines de milliers de produits disponibles sur simple commande vocale. Hakim Kasmi a joint Philippe Moati, il est professeur d'économie à l'Université Paris Diderot.
La compétitivité d'un distributeur a reposé pendant longtemps dans la grande distribution sur la puissance. On était dans une économie de type industriel, hein, où pour être bon, il fallait être gros pour mobiliser des économies d'échelle à tous les niveaux, au niveau des achats, de l'organisation logistique, etc. Aujourd'hui, et c'est au diapason de ce qui se passe à l'échelle de toute l'économie, on sera compétitif comme distributeur si on maîtrise des compétences. Et des compétences qui sont de plus en plus sophistiquées, qui s'inscrivent manifestement dans la capacité à connaître et anticiper les besoins des clients par une compétence dans le traitement de ces méga sources de données que laissent les consommateurs à travers leur déambulation sur la toile et dans les magasins. Donc cette compétence dans la captation et le traitement des données, les distributeurs ne l'avaient pas. Ils viennent d'un monde très 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 différent. Et évidemment, comme ce sont des compétences qui relèvent du numérique, les géants d'Internet l'ont naturellement. Ils ont pris une avance considérable dans la matière et les distributeurs n'arrivent pas à suivre. Donc là, il y a une sorte d'aveu d'échec. Si on veut gagner la bataille de cette nouvelle révolution commerciale, eh bien, il faut aller beaucoup plus vite dans l'acquisition des nouvelles compétences. Ça peut se faire par des rachats. D'ailleurs, Walmart avait fait un rachat d'un gros acteur du e-commerce américain il y a quelques mois. Ça peut se faire aussi par des alliances, et ça va plus vite avec des alliances. Avec le risque, évidemment, que dans une alliance, l'équilibre des pouvoirs puisse être en sa défaveur, puisque finalement, celui qui va tenir l'élément le plus stratégique dans cette alliance, c'est Google.
L'économiste Philippe Moati qui répondait à Hakim Kasmi. Un tout petit mot du temps avec demain des perturbations sur le sud-ouest et sur la moitié est de la France. Ailleurs, il devrait faire plutôt beau.